Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Imaginez un instant, faire un bond en arrière, un très grand bond, disons entre 3300 et 2200 avant notre ère.
C'est pas la porte à côté, en effet.
Bah non, c'est clair. Et le but de notre voyage d'aujourd'hui, c'est de se retrouver face à l'un des mystères les plus visuels du néolithique européen.
Un mystère gravé dans la pierre.
Voilà, littéralement. Pour quiconque nous écoute et cherche à comprendre comment nos lointains ancêtres percevaient leur monde, cette plongée au cœur des sources va être vraiment captivante. Notre mission, c'est de lire dans la pierre.
Et ce qui est formidable avec cette analyse précise, c'est qu'on a un guide. On ne part pas de rien, on n'est pas dans l'abstraction.
Absolument. Toute notre discussion d'aujourd'hui repose en fait sur une source unique, mais d'une richesse incroyable. Un article de fond qui s'intitule « Les statues menhirs du musée Fenaille ».
Publié dans le bulletin numéro 57 du Cartoclub Aveyronnais.
C'est ça. Et avant même de plonger dans le vif du sujet, je tiens vraiment à saluer le travail éditorial. C'est Guy Mazard, le rédacteur en chef, qui a conçu toute la mise en page de ce bulletin. Et franchement, son travail de maquette, c'est un écrin visuel parfait.
Et indispensable, oui. Parce que le texte, lui, nous vient d'Aurélien Pierre. En tant que conservateur, il apporte un regard d'expert très méticuleux. Il fait pas juste un inventaire, il décode une grammaire visuelle.
Et ce qui rend cette lecture si mémorable, c'est le support visuel. Guy Mazard et Aurélien Pierre s'appuient sur une collection incroyable de cartes postales.
Des cartes postales, c'est quand même fou quand on y pense.
C'est génial. Certaines sont très anciennes, d'autres modernes. Mais c'est à travers ces petits cartons imprimés qu'on va observer des colosses de grès. Il y a un contraste poétique de documenter un message vieux de 5000 ans avec une carte postale du XXe siècle.
Mais c'est une démarche brillante. La carte postale, en fait, elle agit comme une loupe. Elle isole la statue de son environnement.
Ça force l'œil, quoi.
Exactement. Le cadrage, la lumière du photographe, ça révèle des reliefs qu'on verrait peut-être même pas à l'œil nu si on était dans un champ avec un éclairage plat. Et c'est justement ce dont on a besoin pour aborder notre premier grand thème.
L'anatomie du mystère.
Voilà, la fabrication même de ces monolithes.
Alors, on connaît tous les menhirs classiques, hein, ces grandes pierres levées, souvent brutes, obélix, tout ça.
Mais le cliché habituel.
Mais là, l'abbé Hermette, qui est une figure historique de l'archéologie locale citée dans l'article, il a identifié quelque chose de spécifique, ces fameuses statues menhirs. Concrètement, comment on les différencie?
Aurélien Pierre rappelle très bien la définition de l'abbé Hermette. La silhouette générale, oui, elle rappelle un menhir classique, avec souvent une base plus étroite pour la planter.
Jusque-là, c'est logique.
Mais la différence, elle est sur la surface. On parle de sculpture en ronde bosse, pour l'aspect global, parce que le bloc suggère un corps dans l'espace.
D'accord.
Mais le travail de détail, lui, il est fait en bas-relief, ou par incision. L'artisan ne taille pas un bloc de marbre de A à Z, il respecte la forme de la dalle de grès et il vient y imprimer une figure humaine en pied.
Et la technique, c'est le bouchardage, c'est bien ça?
Tout à fait.
Pour notre auditoire qui n'est pas forcément calé en taille de pierre néolithique, on ne parle pas de petits ciseaux en métal fin.
Ah non, le métal était quasi inexistant pour ça. Le bouchardage, c'est d'une rudesse inouïe.
Faut frapper fort, quoi.
Il faut frapper violemment, de manière répétée, avec un percuteur. Une pierre très dure, genre quartz ou silex. On broie la surface du grès pour créer un creux.
C'est un travail de dingue. Imaginez le bruit, la poussière, les semaines d'efforts juste pour faire ressortir la ligne d'un bras.
C'est un engagement physique total.
Et ça rend l'observation des cartes postales encore plus fascinante. Je repense à cette carte éditée par le musée Fenaille en 2013 avec la Dame de Saint-Cernin, ou celle de 2006 de la statue des Morels.
Très bons exemples.
Sur ces images, super bien mises en valeur par Guy Mazars d'ailleurs, on est frappé par la géométrie. C'est pas réaliste du tout. Les jambes sont toutes droites, très rigides, la taille est ultra marquée.
Oui, et cette stylisation extrême, c'est pas un manque de talent, c'est un code. Par exemple, dans le dos, les omoplates sont représentées par ce que l'article appelle une croix de crosse.
Une forme géométrique, donc?
C'est ça, un motif récurrent qui structure le haut du dos.
Et le visage? Sur les reproductions, ce visage nous fixe à travers les millénaires, mais il est d'une simplicité déconcertante.
C'est un paradoxe. L'artisan frappe la pierre pendant des jours, mais pour le visage, il fait juste émerger un nez droit et deux yeux ronds.
Jamais de bouche?
Extrêmement rare. Ce sont des visages muets. Mais, comme le souligne Aurélien Pierre, ces visages lisses portent souvent des marques.
Des tatouages?
Signaler un clan, un statut, figer ça dans la pierre, c'était le rendre éternel. On voit ça aussi avec les vêtements, parfois un grand manteau lourd aux plis bien verticaux.
Donc, quand on voit cette répétition systématique des jambes droites, pas de bouche, croix de crosse, on a l'impression d'un langage visuel super codé.
Vous touchez au cœur de l'analyse d'Aurélien Pierre, c'est son idée majeure dans ce bulletin. Ces sculptures, ce ne sont pas des expressions artistiques libres, elles reflètent un monde hautement structuré.
C'est-à-dire ?
C'est la première fois dans cette région que la différenciation sexuelle est affirmée de façon aussi monumentale et systématique dans la pierre.
Ah, intéressant. Donc, à travers ces cartes postales, quels sont les indices qui montrent cette ligne de démarcation entre les genres ?
Ça passe intégralement par les objets et les parures. D'un côté, le monde masculin.
Les guerriers.
Voilà. Armés d'un arc, d'une flèche, mais surtout de l'attribut roi, le baudrier.
Le baudrier, c'est la sangle en diagonale. Hein.
Exactement. Il barre la poitrine pour soutenir un fourreau avec un poignard. C'est l'homme d'action, le chasseur.
Et face à ce guerrier, on a le monde féminin. L'article mentionne une carte postale vraiment parlante pour ça, une photo de Michel Maillet, la statue découverte en 1958 près de Brousse-le-Château.
Oui, Brousse-le-Château, c'est le parfait exemple de cette grammaire féminine. On y voit clairement les seins, les cheveux tirés en arrière.
Et l'équivalent du poignard, c'est quoi ?
C'est la parure. Le personnage porte un imposant collier à plusieurs rangs, avec un lourd pendentif au centre.
Le contraste est total. D'un côté l'arme, de l'autre la parure. Aucune zone grise pour ceux qui dressaient ces pierres.
Aucune. L'identité de l'ancêtre ou de l'entité représentée est fixée catégoriquement. Cette société devait afficher visuellement cette binarité sur le matériau le plus durable possible.
Et c'est là que l'exploration prend une tournure vraiment inattendue. Le rebondissement de l'article d'Aurélien Pierre.
Le fameux piratage.
Oui. On pourrait croire que ces pierres, une fois plantées, s'étaient réglées pour l'éternité. Eh bien non, elles subissaient un véritable piratage préhistorique.
Elles sont devenues des palimpsestes.
Alors pour rappel, un palimpseste, c'est quand on gratte un vieux parchemin pour réécrire dessus.
Exactement. Sauf que là, c'est sur de la roche dure. Aurélien Pierre montre que plusieurs statues menhirs ont des traces de modifications volontaires, parfois des générations plus tard.
Et avec une règle générale assez folle.
Oui, on les modifiait presque toujours pour les féminiser.
Féminiser un grand gaillard de pierre.
Ouais, mais avec les outils de l'époque, c'est un boulot titanesque.
Ça montre l'importance vitale de l'opération. De nouveaux artisans devaient revenir, gratter et marteler la pierre pour effacer le baudrier, le poignard.
Il fallait aplatir tout le torse.
Voilà. Et une fois la zone vierge, ils bouchardaient à nouveau pour sculpter des seins et un lourd collier. Le guerrier devenait une figure féminine permanente.
C'est vertigineux de penser au contexte.
Pourquoi effacer un homme pour en faire une femme ? Changement de dynastie ? Nouvelle religion ?
L'archéologie nous donne le quoi et le comment, mais le pourquoi reste souvent une hypothèse. Toutefois, la dynamique est claire. L'identité féminine prenait le pas sur l'identité masculine sur ces sanctuaires.
Sauf que, et j'adore quand l'histoire fait ça, il y a une exception.
Ah, la fameuse exception ?
Une anomalie absolue. La statue menhir des Vignales. Et l'article s'appuie sur une carte postale de J.P. Sers pour l'illustrer.
Sur cette carte, on voit un enchevêtrement de lignes complexes.
Pourquoi elle est si spéciale, cette statue des Vignales ?
Parce qu'elle fait exactement l'inverse de toutes les autres. C'est le seul cas connu d'une statue originellement féminine qui a été violemment masculinisée.
Violemment ?
Dans la technique.
Oui.
Au départ, elle était très bien sculptée en champlevé, une technique où on évide le fond pour faire ressortir la figure féminine.
Donc un travail soigné.
Très soigné. Mais ensuite, cette identité n'a pas été patiemment effacée. Elle a été recouverte, presque rayée.
D'accord.
Un artisan est venu inciser par-dessus le bas-relief féminin des sillons profonds et brutaux pour faire un baudrier, un arc et un poignard.
Ils ont balafé la figure d'origine.
C'est ça. La nature première est écrasée sous le symbole du guerrier.
Comme le dit Aurélien Pierre, c'est un passage direct de la femme vers l'homme, sans prendre la peine de lisser. C'est presque du vandalisme sacré.
Ça montre peut-être une volonté d'afficher cette substitution, montrer que le nouvel ordre masculin a supplanté l'ancien ordre féminin à cet endroit.
C'est tout le génie de cet article, magnifiquement agencé par Guy Mazard. En partant de simples cartes postales, on touche au conflit de pouvoir d'une société disparue.
Ces blocs de grès, ce ne sont pas juste des bornes, ce sont les reflets d'une société qui avait un besoin viscéral de codifier son identité et de la réécrire à la pointe du quartz si besoin.
Une encyclopédie gravée, mise à jour au marteau.
C'est ça. Et ça nous laisse avec une question assez troublante pour nous aujourd'hui.
Laquelle ?
Si notre société actuelle devait synthétiser son identité sur un immense bloc de grès pour dans 5000 ans,
ah oui, qu'est-ce qu'on y mettrait?
Quels objets modernes remplaceraient le collier à multiples rangs ou le poignard en bandoulière? Qu'est-ce qui définirait de manière aussi radicale qui nous sommes?
Quelles marques on graverait de force pour affirmer notre pouvoir?
Voilà.
Eh bien, c'est une question qui donne le vertige et qui fera sûrement réfléchir notre auditoire. Merci d'avoir partagé votre regard sur ce mystère néolithique avec nous. À très vite pour une nouvelle plongée passionnante dans les sources.